Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé ? Ça s'appelle We Love Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, de The Office, de Kaamelott ou encore des Simpsons ? Notez bien, We Love Series, c'est un épisode tous les mardis. Disponible sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Julien Dupuis.
Mais bonjour Stéphane.
Salut Julien.
Bah ouais.
Pour parler d'un film au titre français un peu générique quand même, faut bien le dire, hein, L'Enquête.
Oui. Alors du coup, quelle enquête on va parler,
voilà, c'est ça. Parce que L'Enquête, ça pourrait être le film sur Denis Robert par exemple.
Ah, par exemple.
Ça aussi après, tu vois.
Les gens pourraient se dire mais ils sont un peu cons, donc ça se trouve ils ont confondu avec Contre-Enquête.
Contre-Enquête, tu vois, avec de Sidney Lumet, pas du tout, tu vois. Non, L'Enquête, que moi je suis surnommé affectueusement, vu le titre français un peu bas du front, tu vois, un peu simple, un peu facile, La Quéquette. Voilà, donc il fallait que ça soit dit. Mais parce que je préfère le titre français, le titre international, The International, tu vois, c'est quand même
Mais pourquoi La Quéquette?
Je sais pas.
Quel rapport? C'est pas un film qui est porté sur la chose,
pas du
enfin.
Tout, mais en fait, je pense que le mec qui a choisi ce titre en France, il en a une petite, voilà. Voilà, ça reste là.
Oh là,
on
là,
restera
mais
là.
Qu'est-ce que ça
non,
veut
mais
dire?
Pas du tout. Mais c'est
alors,
juste,
monsieur,
c'est
alors.
J'aime bien travestir les titres, c'est tout.
Mais voilà.
C'est rigolo.
Donc La Quéquette.
La Quéquette, voilà. Avec Clive Owen.
Pourquoi je rigole? Voilà. Rigoler, c'est-à-dire cautionner. Non, il ne faut pas que je rigole.
Tu ne dois pas cautionner mes blagues de merde.
Bon, voilà. Alors,
The International de Tom Tykwer.
Mais oui.
Alors, comment on dit Tom Tykwer?
Tom Tykwer.
Tom Tykwer.
Voilà. Alors, moi, j'ai jamais fait d'allemand ou quoi que ce soit,
non,
mais c'est Tykwer, on dit.
Tykwer. Réalisateur, comment dire, qui s'est fait connaître par Cour Lola Cour.
Cour Lola Cour, mais qui est justement quelqu'un, c'est moi qui t'ai suggéré, qui t'ai dit, mais il faudrait qu'on parle quand même de Tom Tykwer. On n'a jamais parlé. On s'est dit que c'était un bon film pour commencer sur sa carrière qui recèle quand même quelques vraiment bons films. Et donc, qu'on connaît pour Cour Lola Cour, qui s'est fait, je pense que les films qui l'ont identifié ensuite, c'est Le Parfum, probablement, parce que c'était une adaptation d'un roman allemand merveilleux, hein, que je vous conseille de lire, de Patrick Suskind, qui avait longtemps intéressé d'ailleurs Stanley Kubrick. Donc, c'est pour ça aussi que le roman avait eu une espèce d'aura, comme ça, à un moment donné, et que le film lui-même avait une aura, parce qu'on disait, bon, c'est impossible, c'est une adaptation impossible, etc. Et qui ensuite a beaucoup travaillé avec les Wachowski, qui a travaillé un peu avec Tarantino, hein, comme tu le sais, puisque c'est lui qui a traduit les dialogues de Inglourious Basterds en allemand,
oui,
en
vrai,
fait,
ouais.
Pour lui. Donc voilà, qui ensuite travaillait avec les... Et tu ne le savais pas apparemment,
non,
Stéphane,
non, mais, non,
je suis
pas,
très déçu,
pas,
tu es un faux fan.
Ça,
et qui est...
Bon, en plus, Inglourious Basterds, c'est vraiment pas celui que je préfère.
Oui, hein. Oui, c'est clair. Je dis c'est clair que bon... Bref, mais passons. Et qui ensuite travaillait beaucoup avec les Wachos, donc notamment sur Cloud Atlas.
Sense8.
Alors déjà, il faut savoir que les Wachowski le citaient pour Matrix, en fait. Ils disaient que c'était un truc sur lequel il y a des plans, en fait, un plan avec Trinité, apparemment, qui citait Cour Lola Cour, enfin en tout cas eux disaient qu'ils se sentaient dans cette mouvance-là, mais nous en parlerons peut-être plus tard. Mais ils ont travaillé en tout cas sur Cloud Atlas, il est carrément co-réalisateur avec les deux sœurs Wachowski, co-compositeur de la musique, parce que c'est une des particularités de Tom Tykwer, c'est qu'il est comme quelques autres, comme Alejandro Amenábar par exemple, et il écrit la musique de ses films, ce qui est un truc qui m'a toujours fasciné. Moi j'avais posé la question à Amenábar, j'ai dit mais comment tu peux écrire la musique en plus de ton film? La musique arrive à un moment où en général le réalisateur il est lessivé et tout, apparemment c'est quand même pas facile. Mais ces mecs ont une espèce de malédiction, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils veulent vraiment tellement précisément qu'ils n'arrivent pas à déléguer en fait à ce moment-là.
Oui, puis le style musical de Tykwer, il est quand même très spécifique aussi.
Il se reconnaît pas mal, c'est souvent des choses cycliques en fait, comme ça, qui tournent, qui correspondaient merveilleusement bien, moi je trouve, à Cloud Atlas. Ils ont travaillé effectivement ensuite sur Sense8, où il était un des réalisateurs avec les sœurs Wachowski et James Matic. En fait, ils étaient comme ça. C'est ce groupe de quatre réalisateurs, en fait, se partageant en fait la mise en scène des épisodes. Et c'est quelque chose qu'il a poursuivi avec une autre série que je vous invite à découvrir vraiment tout à fait récemment, qui s'appelle Babylon Berlin, qui je crois pas, je sais plus si où elle a été diffusée en France, mais en tout cas elle est sortie en vidéo en Blu-ray. Qui est une, je vous le piche rapidement parce qu'on parle parle pas de ça, mais en même temps, c'est une série qui pourrait rentrer dans le cadre de Steroid, qui se déroule en fait dans le Berlin de l'entre-deux-guerres, plutôt dans les années 30, et qui est une version, on va dire, James Ellroyenne, en fait, du Berlin de cette époque-là. Donc, vous aurez à peu près compris ce que je veux dire là-dedans, c'est-à-dire des crimes très crapuleux, qui permettent en fait de scruter la totalité en fait de la ville de Berlin à cette époque donnée, des prostituées aux grands dirigeants, des flics plus ou moins ripoux, aux milieux les plus pauvres en fait de Berlin. C'est vraiment une très très bonne série, vraiment hyper, vraiment mise en scène. Enfin, lui, Tom Tykwer se positionne comme ça aujourd'hui en disant moi aujourd'hui, c'est juste que je fais un film qui est beaucoup plus long. Bon, je pense que ça reste quand même un peu plus compliqué que ça, mais voilà, on sent qu'il y a une vraie ambition de mise en scène, et on va beaucoup, je pense, parler de mise en scène dans The International. Putain, après cette intro qui n'en finit pas, nous arrivons enfin puis au sujet.
C'est
important de le présenter, Tom Tykwer. C'est forcément évident.
Parce que c'est un artiste assez complet, mine de rien, qui assez versatile aussi. Il fallait le dire aussi, parce qu'il a fait aussi des comédies.
Des comédies romantiques,
des trucs de trio. Enfin, voilà, donc il y a tout un truc en fait autour de... C'est-à-dire, il est en plus bon. C'est-à-dire que c'est pas un réalisateur installé aux États-Unis à proprement parler. D'ailleurs, l'enquête.
Mais il s'en fout un peu.
L'enquête, c'est son premier vrai film de studio, on va dire, à l'époque.
C'est une coprode allemande, beaucoup tournée à Berlin.
Beaucoup tournée à Berlin, mais c'est quand même un film Sony. C'est un budget, mine de rien. Et ça se sent dans le film, je trouve. C'est pas un petit film, quoi.
Ouais, c'est sûr.
C'est un film aussi intéressant pour savoir comment quelqu'un, en fait, qui est finalement assez insaisissable, puisse arriver à se retrouver là-dedans. Alors, moi, j'aimerais bien que tu pitches le film.
Pourquoi c'est toujours à moi de pitcher?
Parce que c'est toujours la personne. Moi, je présente, moi.
Faites une pétition, ceux qui nous écoutent, pour que j'arrête de pitcher. Ouais,
ça n'a jamais marché, tes histoires de pétition.
Alors ça, c'est hyper dur à pitcher, pour le coup, The International, parce que c'est, par définition, un récit assez abscon. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il le présentait. Tom Tykwer, il disait je veux noyer et perdre les spectateurs et les rattraper au bout d'un moment. Alors, je suis pas sûr que ce soit le truc qu'il aurait le mieux réussi à faire dans le film, mais
assez balisé, je trouve, par certains côtés, sur l'écriture.
Mais en tout cas, voilà. Donc, en gros, pour la faire très 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 simple, c'est un agent d'Interpol qui est interprété par Clive Owen, qui était vraiment, alors lui, dans sa période merveilleuse, parce qu'il sortait des Fils de l'Homme et puis de Inside Man, puis après, ça a quand même pas vraiment tenu la route, et c'est bien dommage.
En termes de qualité, tu veux dire ?
Oui, c'est ça. Mais bon, donc c'est un agent d'Interpol qui enquête conjointement avec une employée d'un cabinet de procureur de Manhattan sur une banque qui aurait des agissements tout à fait condamnables, mais à très haut niveau, que ce soit sur le trafic d'armes ou le blanchiment d'argent. Et tous les deux vont... On arrive en fait au cours de cette enquête, on n'en voit pas le début au final, ça fait partie des choix d'écriture que j'aime beaucoup personnellement, on arrive au cours, mais on arrive à un point en même temps central où il y a un de leurs bras droits en fait, qui se fait tuer après avoir quasiment touché au but. Et tout le récit, tout le film va être comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont quasiment toucher au but en permanence, et en permanence, là, la banque, plus ils vont progresser, on va dire, dans leur enquête, plus la banque va dévoiler à la fois ses projets et en même temps ses méthodes totalement mafieuses, jusqu'à pousser nos héros dans leur dernier retranchement. Et c'est là aussi où moi, j'aime beaucoup le film, et ça, nous en reparlerons plus tard. Donc c'est vous aurez déjà compris malgré ce pitch quelque peu nébuleux, enfin je crains qu'il ait été quelque peu nébuleux, qu'on est vraiment on n'est pas vraiment sur un film d'action, même si ça aussi on va en parler, parce qu'il y a une belle scène d'action dans le film, mais on n'est pas vraiment sur un film d'action.
Une très belle scène d'action
qui est vraiment excellente, mais on est sur un pur thriller politique à la 3 jours du Condor, Les Hommes du Président. Tous ces films des politiques en fait des années 70, enfin,
et
tout
quasi fétichiste à la base, puisque c'est en clair. Fait c'était un film qui devait se passer dans les années 70, c'est-à-dire que c'est en gros c'était le premier scénario, et Tykwer justement qui a beaucoup retouché le truc, même s'il n'est pas crédité, en tout cas il a beaucoup développé avec le scénariste, a précisé que l'idée c'était d'en faire un film contemporain, puisque en fait ces problèmes sont contemporains, en fait, ils existent. Et d'ailleurs, la coïncidence veut que le film soit sorti à peine quelques mois après
Lehman Brothers.
Ouais, et en fait la grosse crise financière qui a suivi.
Voilà, une crise financière monumentale et qui justement te laissait entrevoir. Et c'est marrant parce que le film devait pas sortir vraiment là, la sortie a été repoussée et mais la sortie a été bloquée et puis bah j'imagine que pour le film en fait ça tombait bien parce que c'est vrai que c'était un film qui à un moment où vraiment enfin c'était difficile d'avoir foi dans les banques si tant est que vous aviez foi dans votre banque auparavant quoi.
Alors, c'est un film qui n'a pas marché.
Non, pas du tout.
Qui s'est planté. Ce qui fait que et peut-être en fait c'est aussi dû au fait que et là on peut spoiler de façon
bon, on va spoiler on est obligé
de façon en fait, assez directe en fait ce n'est pas vraiment un film où la banque chute quoi tombe en fait
non,
derrière
bah,
c'est-à-dire que voilà et en gros tous les agissements en fait de cette enquête tous les tenants et aboutissants finalement ne mènent pas à grand chose quoi c'est-à-dire
en fait,
que
oui vas-y pardon Steph
et donc du coup en fait je pense qu'il n'y a pas de happy end assez prononcé
mais il n'y en a pas
suffisamment
du tout,
en fait prononcé pour dire non mais en tout cas pour dire que bah c'est-à-dire que bon t'as des banquiers qui payent quoi le prix mais disons que c'est une soif, c'est ce que lui annonce d'ailleurs le banquier à la fin. Enfin, tu peux me tuer, mais ça servira à rien.
En fait, c'est ça qui est intéressant dans la fin. On commence par la fin. C'est n'importe
non, on commence
quoi,
par la fin, mais c'est... Ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est important quand même parce que c'est aussi, tu aussi le ton, je pense, du film. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans cette fin, c'est que donc le personnage de Clive Owen, et ça, c'est un ressort dramatique et narratif connu qu'on a déjà vu à multiples reprises, mais il est poussé donc dans ses derniers retranchements. Et en l'occurrence, son dernier retranchement, lui, parce qu'il est un agent d'Interpol. Donc les agents d'Interpol, c'est un peu particulier. C'est pas vraiment comme les flics de terrain, ils manipulent pas les flingues et tout de la même façon, tout c'est loin d'être des tueurs en fait, c'est pas du tout ça quoi. Ouais. Et donc, lui il est poussé dans ses derniers retranchements, il décide très clairement, il rompt son association avec Naomi Watts en lui disant écoute, moi là maintenant je vais aller dans un terrain, tu ne vas pas pouvoir me suivre. Et ce terrain en fait, c'est qu'il devient lui juge et bourreau en quelque sorte, c'est à dire que il se retrouve face à au personnage qui a en quelque sorte incarné la banque jusqu'à présent, que tu vois entrevois petit à petit, c'est pareil, c'est un travail qui est vraiment super
Eric Thompson, quoi.
Voilà, qui est la façon dont il a, je trouve, d'incarner ce personnage est tout à fait intéressante. Tom Tykwer, tu le vois d'abord magouillé en fait avec un homme politique venu d'Afrique noire en fait. Et tu vas voir après, t'auras un petit payoff là-dessus, mais tu vois après dans sa famille comment il élève en fait son fils là-dedans, avec dans un cadre extrêmement feutré, dans une maison d'architecte, et il joue au jeu de go, je crois, et en fait il lui apprend la vie et la vision du monde telle que lui il la pratique en fait en direct avec ses collaborateurs.
Il a en fait son héritier.
Voilà, et bon bref, et donc c'est l'incarnation de la banque. Le personnage de Clive Owen, bah, spoiler de chez spoiler, hein, les amis, alors attention, mais il le tue, et en fait, tu te rends compte que
Non, non, c'est pas le personnage de Clive Owen qui le tue.
Enfin, oui.
Non, mais en fait, moi, je parlais pas forcément de spoiler la séquence en soi, si c'était la mort du personnage, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, et c'était pour ça que je me permettais de commencer par la fin, on va dire, c'est que l'idée même, en fait, que ce film se plante, à ce moment donné en fait spécifique de l'histoire, on va dire, tu vois, économique, tu vois, avait des conséquences parce que justement il n'y avait pas de catharsis propre,
oui.
Si ce n'est en fait la mort de ce personnage qui est vraiment dicté comme tel.
C'est mais
à
encore
dire
une
pour
fois,
dire,
en fait, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas pourquoi j'ai répété, mais c'est vrai que c'est pas lui qui le tue, mais en gros, il est presque le porte-flingue en fait. D'une famille un peu que t'imagines un peu mafieuse, ou en tout cas d'hommes politiques qui ont des trucs pas tout à fait clairs. Et puis le générique de fin se déroule sur mais tout va bien au final, au début ça va mal, mais la banque va se relever et tout. Et c'est ce qui se passait aussi à l'époque. Donc au final, en fait, le film est aussi le récit d'un homme qui est dans le sacrifice. À un moment, il y a une scène d'exposition, parce que l'exposition est très efficace sur certains trucs, et notamment sur les personnages. Et il y a une scène d'exposition, moi, que j'aime beaucoup, ils sont, Naomi Watts et les personnages de Naomi Watts et de Clive Owen sont dans un ascenseur. Et elle lui dit, mais t'as pas dormi depuis combien de temps? Tu t'es pas douché depuis combien de temps? Tu manges froid depuis combien de temps? Et t'as pas baisé depuis combien de temps? Et en fait, elle le dit, c'est pas une blague, c'est très sérieux. Et en même temps, t'as tout compris, en fait. Tu vois ça, tu dis, ouais, mais enfin voilà. Le fait qu'elle lui dise, t'as pas baisé depuis combien de temps, je trouve que c'est, tu t'attends pas à ça, ça te désarçonne un peu, parce que le pas manger, pas dormir, ça c'est pareil, c'est des clichés et tout. Mais ça, tu comprends. Enfin, je sais pas, c'est très parlant en fait sur les sacrifices. Et donc ce personnage-là va aller jusqu'au sacrifice ultime. Tu l'as vu auparavant sacrifier sa carrière, tu l'as vu auparavant donc sacrifier sa vie personnelle et tout, va aller jusqu'au sacrifice ultime pour au final rien, absolument rien. Et ça, c'est vrai que c'est hyper déceptif. En fait, c'est vrai que tu sors du film avec un poids sur toi, surtout à cette époque-là, en fait, qui est terrible, parce que c'est aussi ça, en fait, cette crise financière où tu voyais tous les États qui étaient en train de bon, après, on aura peut-être des vues différentes là-dessus avec certains de nos auditeurs, mais enfin, tu voyais tous les États qui ployaient sous le poids des banques et qui étaient là, en fait, pour les renflouer, pour renflouer les conneries et les machins et tout, quoi. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est quelque part un film qui pouvait, dont la sortie pouvait pas apparaître opportune et qui, au final, ne l'est pas vraiment, parce que c'est vrai que il te dit juste, mais les gars, on a perdu, en fait.
Ouais, et puis il y a cette idée toute bête, en fait, que l'idée n'est pas de contrôler les guerres, par exemple, parce que là, en l'occurrence, on parle de marché, comment dire, de marché d'armes, tu vois, mais et de comment on va utiliser des machines qui contrôlent les missiles ou des trucs comme ça, comment on va les déployer, mais pas tant, en fait, pour contrôler l'issue de la guerre, mais pour contrôler la dette de la guerre, parce que c'est sur cette dette-là qu'ils se font de leur beurre, en fait. Ouais. Et le simple fait de les dicter de façon finalement assez limpide dans le film, c'est une manière de dire, de toute façon, le monde dans lequel on est est totalement opaque, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que il y a tellement de ramifications économiques, politiques et comment dire, voilà, que, et ça, le film le présente finalement assez simplement, assez directement, assez bien, mais c'est surtout, en fait, les enjeux sur les humains, en fait, qui sont intéressants. C'est-à-dire vraiment, il y a toute l'idée de tous ces pions, tous ces personnages, en fait, qui se retournent, si tu veux, à un moment donné. Moi, je pense que, bon, ce qui est assez, comment dire, clair quand tu regardes le film, c'est que c'est un film qui est assez dynamique, mine de rien, pour un film qui est finalement statique dans son enquête. C'est-à-dire que, en gros, moi, je trouve que les problématiques, on va dire, d'écriture de ce film, elles sont finalement assez structurelles. C'est-à-dire que c'est vraiment plus une question de, on arrive d'un point A à un point B, des fois, avec des facilités, je trouve, de scénario, tu vois. Des trucs où on va chercher un gars qui est un médecin, on lui fait croire que il y a un patient qui veut le tuer, et donc d'un seul coup les mecs ils ont accès à toutes ces archives et d'un seul coup.
Moi j'aime bien cette scène parce que le personnage je le trouve rigolo, puis j'ai besoin de cette petite soupape aussi à ce moment-là. Donc
mais
moi,
tu sens qu'on va d'un point A à un point B, un point C, un point D, en fait, si tu veux, de manière un petit peu mécanique, je trouve. Et
oui,
en fait...
mais en même temps ça fonctionne de l'écriture qui est, comme tu le disais, avec des séquences extrêmement courtes, en fait, qui sont juxtaposées, et c'est aussi ce qui permet, à mon sens, hein, de garantir en quelque sorte le rythme du film, quoi.
Oui, oui, et surtout ce qui est assez marrant, en le voyant aujourd'hui, c'est un film qui est sorti en 2009, hein, si tu veux, qui est pré-téléphone portable, enfin smartphone en tout cas, tu vois, et en gros, si tu veux, tu vois déjà que quelque part, il y a tu sais, enfin, quand les mecs ne peuvent pas concevoir, en fait, qu'ils puissent être entendus chez eux, si tu veux, ou ce genre de choses, et donc t'as des scènes entières où il va voir, par exemple, son patron. Et il lui dit, viens, on va faire un tour. Et le mec dit, non, viens chez moi. Il pèle et il fait non. Et en fait, il lui arrache les fils et tout. Et là, t'es vraiment dans un truc de thriller d'espionnage à l'ancienne, en fait, presque. Ce qui, à mon avis, serait beaucoup plus. Enfin, aujourd'hui, ce serait complètement différent, la façon de faire ces choses-là.
Ce serait d'ailleurs plus problématique parce que ce serait moins visuel. L'avantage, c'est que là, du coup, il est obligé de casser le téléphone, de montrer le fil, de montrer le truc. Tu peux faire une très courte focale dessus pour que ça ressorte avec le mec qui est derrière. Enfin, tu vois, c'est des tropes visuelles qu'on a tous intégrées et qui fonctionnent super bien. Et c'est hyper pratique.
Mais
quoi.
Avec des petits moments, voilà, donc de ce que j'appellerais des petits clichés du thriller d'espionnage, quoi. Mais après, le truc, c'est que en dehors de ça, ce qui est important, en fait, si tu veux, c'est les subtilités, c'est-à-dire dans aussi la démonstration de l'intelligence des personnages, c'est-à-dire intelligence avérée, intelligence émotionnelle. Par exemple, il y a cette première idée que à un moment donné, en fait, avec ce qui s'est passé avec Clive Owen, et notamment après la scène du musée Guggenheim, on va y revenir, mais en fait, pourrait être recherché. T'as des flics, en fait, qui rentrent dans la rue, si tu veux, et tu te dis, bon, ça y est, ils les ont attrapés, et t'as Naomi Watts qui font, ils t'ont reconnu. Le mec fait, non, je crois pas. Bah, en fait, ils sont pas là pour toi, en fait. Ils savent pas que c'est toi, tu vois. Et en fait, elle passe à travers, et en fait, ils s'enfuient. Et ça, ça marche très bien, parce que, tout bêtement, la nana, elle a posé sa tête à ce moment-là, elle a réfléchi. Elle a dit, est-ce qu'ils peuvent te reconnaître, ils peuvent pas te reconnaître, donc en fait, ils savent pas que c'est toi.
Ça fait tout simplement plaisir aussi de voir des personnages dans un film qui sont plutôt intelligent, en fait, voilà, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que le film te sème jamais vraiment, un petit peu de temps en temps, mais ça fait aussi plaisir, j'ai envie de dire du plaisir, en fait, de ce genre, quoi. Mais c'est, ouais, effectivement, c'est ça, c'est que c'est des personnages qui sont humains et qui sont intelligents, en fait, et c'est agréable, en fait, c'est tout. Enfin, moi, ça m'a fait ça aussi, tu vois, dans le truc, quoi.
Et il en va de même, en fait, justement, dans l'écriture de la scène d'action, c'est-à-dire que en gros, cette scène, alors apparemment c'est une scène qui a été rajoutée, en tout cas qui a été étendue, si j'ai bien compris, parce
qui a été peut-être étendue, mais elle était tellement compliquée, j'ai du mal à croire à ça, parce que c'est un des trivia d'IMDb, non, t'as peut-être
alors,
vu ça. ça là-dessus.
En fait, le truc, c'est qu'apparemment, surtout, qu'il disait qu'il fallait dynamiser le film, en fait, ouais, en termes d'action. J'ai du mal à croire qu'il y a eu des reshoots.
J'ai du mal, en fait, parce que c'est une scène qui a été... Alors, c'est marrant qu'on y vienne aussi tôt. Je pensais qu'on finirait plutôt là-dessus, mais allons-y. Mais c'est une scène qui est... qui a été, comme on l'imagine, extrêmement complexe. Et puis surtout, elle est très préparée. Enfin, c'est-à-dire que t'as une scène, c'est un payoff, en fait, d'un truc qui a été mis en place auparavant, où t'as en gros un des employés, en fait, de la banque qui est au cœur, en fait, du complot, qui lui aussi a des révélations aussi sur son passé qui sont plutôt intéressantes, je trouve, d'ailleurs, puisque c'est un ancien général communiste, en fait, de la Stasi, et je trouve ça très bien vu, en fait, que ce soit un ex du régime coco, en fait, qui soit à la botte, en fait, de ce que le capitalisme a pu produire de plus monstrueux. Je trouve que c'est bien vu. Donc ils emploient un tueur, un tueur à gages, et ils se rencontrent en fait dans un musée. Ce qui est intéressant aussi au niveau de...
Ce qui est fréquent. Hein, dans...
Ouais, mais où ça va se passer aussi le film? Parce que moi, j'ai aussi envie qu'on parle tout à l'heure de l'architecture et de l'arrière-plan. Mmh. C'est très important, il me semble, dans le film. Et du coup, le payoff, c'est qu'ils se rencontrent un peu plus tard, mais là, au Guggenheim, qui est donc le musée de New York, que je pense que vous connaissez tous, même si vous ne l'avez jamais visité, qui est un musée d'art moderne. Et qui est un musée qui est connu parce qu'il est construit en colimaçon, c'est-à-dire que c'est une espèce, si vous voulez, de grand cône, de tour, avec la galerie en fait qui monte en fait à l'intérieur en colimaçon. Et c'est super intéressant et c'est un choix moi que je trouve génial, c'est-à-dire que déjà Tom Tykwer lui a vraiment réfléchi sur pourquoi j'ai besoin d'une scène d'action dans le film et si j'ai une scène d'action dans le film, comment je vais faire pour qu'elle fonctionne. Et lui, donc, il se dit, j'ai besoin d'une scène d'action parce qu'au bout d'un moment, toute la tension qu'on a accumulée dans le film, il faut aussi qu'elle puisse ressortir au bout d'un moment. Et là, on parle pas de, comment dire, d'état mental, comme on l'a dit tout à l'heure avec est-ce que je vais sortir en étant guilleré ou est-ce que je vais sortir un peu plombé? Non, évidemment, il faut que tu sortes plombé. Moi, il me semble que c'est nécessaire d'un film qui aborde ce sujet-là. Mais par contre, pour le fonctionnement, on va dire, émotionnel du film, il faut effectivement que tu as un truc où tu sortes cette tension-là et tu la sors à ce moment-là. Et le truc qui était intéressant, c'est que en fait, le personnage de Clive Owen et de Naomi Watts, mais surtout de Clive Owen, il est pris dans une espèce de spirale infernale, littéralement, en fait, qui est personnifiée par le musée Guggenheim. Et il y a un dernier truc que moi j'adore, mais je pense que ça t'as aimé aussi, Steph, quand on en a parlé hors antenne tout à l'heure, mais c'est que au niveau de la topographie, de la scénographie, en fait, du gunfight, t'as rarement vu ça. Il y a deux choses qui sont super, c'est que c'est un musée qui est tout blanc, donc tous les impacts de balles, tu les vois à fond, il joue beaucoup avec ça. Et puis, au niveau de l'emplacement en fait des gens et des façons de se cacher ou de revoir un autre ennemi et tout, c'est super parce que ça change en permanence, parce que tu comprends aussi tout de suite ce qui se passe. C'est à la fois cyclique et en même temps ça change en permanence. Ça marche du feu de Dieu, quoi.
Il y a aussi l'idée, en fait, si tu veux, qu'il y a une association totalement inattendue à ce moment-là. C'est-à-dire que, en gros, ils sont en train de pister un tueur, en fait,
ça occupe quasiment une heure du film. Ouais, hein. C'est le mec à abattre, voilà, le tueur et le mec à choper pour faire tomber la banque.
Et d'ailleurs, la scène, elle est enclenchée par l'idée qu'ils le trouvent presque par hasard. C'est-à-dire qu'ils sont très proches de le trouver, mais en fait, ils se gourdent d'une rue. Mm. Ils regardent en face au lieu de regarder, voilà. Et en fait, ils auraient totalement pu passer à côté.
Il y a un des acolytes qui va chercher un café.
Voilà, et ils voient le mec. Et là, ils le reconnaissent parce que c'est un type, en fait, finalement, qu'ils ont réussi plus ou moins à identifier dans une scène... où le mec partait d'Italie puisqu'il a snipé un mec, un homme politique, en fait, qui était à coquiner à la banque, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, une très belle scène de cinéma aussi, je trouve, c'est-à-dire que...
La scène de reconstitution est excellente.
Voilà, parce qu'en fait, ce qui est très bien vu dans l'idée des deux balles, en fait, qui vont retracer pour voir d'où ont tiré, parce qu'ils ont compris qu'il y avait deux tireurs, en fait, tu peux pas, en fait, c'est que du langage de cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, la façon de regarder à travers le trou des bastos, en fait, il y a que en voyant à travers ce biais-là que tu comprends. En fait, si tu veux, toi en tant que spectateur, comment ils comprennent d'où ça vient. Pourtant, sur le papier, ça ne tient pas la route. En fait,
non,
c'est,
mais
c'est pas possible.
Ce qui est super, c'est que c'est là où tu vois la différence entre un Tom Tick Vert, par exemple, et un Macquarie sur le
Jack film, Reacher.
Sur Jack Reacher. Ouais, c'est-à-dire que t'as à peu près cette même typologie de dramatique. Et c'est vrai que Tick Vert, tu pourrais t'arrêter sur quand il revoit, il y a une image fantôme, par exemple, du tueur et tout d'ailleurs, qui est sympa et tout, qui est intéressante. Mais par contre, la vraie idée de mise en scène, c'est qu'en fait, il y a deux balles qui sont tirées au même endroit, mais sur un poteau. Et en fait, le personnage de Naomi Watts et de Clive Owen découvre que en fait ça n'a pas été tiré du même endroit, que le tireur n'était, il y avait donc deux tireurs différents, déjà en mettant un petit tube en fait d'un petit drapeau d'un petit fanion en fait, puisque c'est lors d'une
ils sont totalement en train de péter la scène de crime en
et du coup ça marche aussi dans le rapport avec le flic italien aussi, tu vois, mine de rien. Et puis effectivement, parce que Clavon regarde à travers et suivant l'angle en fait de la balle, il voit où était le tireur, et effectivement ça marche pas, je pense, comme ça dans la réalité.
Dans la vraie vie, tu peux pas.
Je suis sûr que tu t'interroges un spécialiste de la balistique. Le mec, il va dire non, mais ça marchera jamais. Mais par contre, cinématographiquement, effectivement.
C'est hyper fort, quoi.
C'est super, quoi. Tu vois ça, tu dis, ah putain, il y a un vrai cinéaste à la barre, quoi.
Et mine de rien, un point de vue, donc, sur le film. Vraiment. Et en fait, on en revient, donc, à l'idée de la scène du Guggenheim, tu vois, où justement, en fait, ce tueur, en fait. Qui est le mec en fait qui depuis une heure en fait est
qui est ton antagoniste,
voilà,
en plus,
qui est redoutablement en plus comment dire efficace, quoi, parce que c'est un tueur vraiment de sang-froid, quoi. Qui ne paye pas de mine, il a une tête de prof de maths en gros, hein, tu vois, plus ou moins, quoi.
Disons que toi, en tant que spectateur, tu t'attends à ce qu'ils arrivent à le mettre à terre après un pugilat monumental, voilà. Etc. Et donc qu'est-ce qui se
passe,
en
fait, quand les mecs arrivent en fait à cette séquence là ils vont pour l'arrêter parce qu'ils ont compris qu'ils se sont fait griller, encore avec un jeu de miroir d'ailleurs en fait assez intéressant, quoi. Et parce que en fait t'as le contre-champ à travers le miroir, où c'est ce truc, je pense, qui arrive à tout le monde en fait, c'est-à-dire que tu crois que la personne te voit pas parce que tu la vois pas directement, mais quand tu te rends compte en fait que tu te vois toi-même en fait dans l'angle, en fait, voilà, d'un seul coup, t'as compris qu'elle t'a vu aussi, quoi. Et ça, c'est hyper bien pensé, ça marche hyper bien dans la séquence. Il l'arrête et le mec leur dit, mais ça sert à rien, les gars, parce qu'en fait, ils vont me tuer avant. Et ça arrive littéralement deux secondes après, c'est-à-dire, il lui tire dessus, mais il portait un gilet pare-balles et finalement, il s'allie à eux à ce moment-là. Parce que
t'as Clive Owen et le tueur, donc le mec qui traquait, qui vont s'allier contre d'autres tueurs qui ont été dépêchés par la banque.
Dans la séquence. Et donc, ce qui se passe, en fait, à partir de ce moment-là, c'est que oui, t'as le facteur humain, si tu veux, qui est lié à Clive Owen, qui demande aux gens de se planquer, qui leur dit, planquez-vous, il y a des trucs. Parce que, d'un seul coup, tu comprends pourquoi il fait ça, en fait, le personnage de Clive Owen. Quel est son vrai but, en fait, quelle est l'idée, en fait, au-delà de ses valeurs, en fait, de faire ressortir, en fait, de protéger les gens, en fait, de travailler pour le bien commun, tu vois. Et t'as, en fait, cette idée que, et ça, c'est mine de rien important quand on va lui demander, justement, de dépasser ce truc-là plus tard, quoi. Mais t'as aussi l'idée que le tueur, c'était un tueur, en fait, c'était son métier.
Ouais.
Et que d'un seul coup, en fait, si tu veux, à l'article de la mort, et il le sait, quoi, tu vois, en fait, il décide de se ranger en une seconde sans même qu'on questionne l'idée, si tu veux, et pourtant elle est surprenante, si tu veux. On ne la questionne absolument pas parce que c'est la bonne chose à faire à ce moment-là. Et du coup, toute cette notion-là, en fait, et en plus, comme il est redoutablement efficace, en fait, il l'aide beaucoup Clive Owen, en fait, dans la séquence.
Mais ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que littéralement, et c'est un peu l'idée aussi de la fin, c'est que l'intelligence du film de Tom Tick Vert, c'est que des films de plus bas du plafond, on va dire, là-dedans, on personnifie en gros le complot. Te disent, voilà, c'est cette personne qu'il faut arrêter, ou ce groupe de personnes, au mieux, ou un truc comme ça, et c'est cet élément qu'il faut trouver et tout, et il s'arrête là en général. Mais lui, ce qui est génial, c'est qu'il travaille ça, en fait, Tick Vert, et c'est la même chose avec la fin, finalement, c'est que, pour des raisons dramaturgiques, il te personnifie, il incarne, en fait, l'ennemi, le danger, le truc à abattre et tout, et il fait attention à te dire, c'est plus compliqué que ça, en fait.
C'est un pion.
C'est un système. Mmh. C'est le système qu'il faut combattre. C'est pas l'humain, en fait. Et en combattant et en te focalisant sur l'humain, tu y arrives pas. Et il te le fait à trois reprises. Il te le fait avec le tueur. Il te le fait donc avec le dirigeant de la banque, à la fin. Et puis il te le fait avec ce général de la Stasi aussi, qui va se rallier aussi finalement à leur cause très tardivement. Même bon, si lui, il te donne une autre perspective aussi sur le système et sur la problématique, quoi.
Et ce qui fonctionne, à mon avis, dans cette scène d'action, au-delà même de la qualité de la scène en soi, c'est-à-dire tu peux la regarder une fois que t'as vu le film, je pense que tu peux la regarder assez tu vois assez, avec une certaine comment dire
un plaisir
de cinéma, mais en fait elle ne fonctionnerait pas émotionnellement en fait si justement elle n'était pas à ce moment-là spécifiquement dans le film, et tout ce qui a suivi, c'est-à-dire que on peut pas dire que The International est un film d'action proprement parlé, mais par contre en fait tout ce qui amène dans l'intrigue, dans le scénario à ce moment-là, en fait, c'est ce qui fait que la scène fonctionne du feu de Dieu,
exactement,
quoi. Et en fait bon, il y a évidemment l'idée que comment dire, tout l'aspect cyclique en fait de l'endroit qui a été reconstitué, si j'ai bien compris en fait.
En partie, ils ont tourné un tout petit peu en fait au Guggenheim.
J'ose même pas imaginer comment tu pourrais tirer.
C'est très compliqué, ouais. Effectivement, là-bas, je vous laisse imaginer le prix des œuvres d'art, etc. D'ailleurs, c'est un artiste berlinois.
Même si tu les enlèves et que tu en mets d'autres.
Mais c'est un artiste berlinois, un vrai artiste contemporain en fait, qu'il allait chercher parce qu'il aimait justement ce travail. Et alors, il y a un autre truc que j'ai oublié, je suis désolé, pourtant je l'avais préparé, mais je crois qu'en fait, c'est un truc qui mélange, et c'est ça, c'est un artiste contemporain, un vidéaste. Donc ça aussi, c'est intéressant, ça marche super bien dans le film parce que ça te brouille la vision en fait quand il le faut. Enfin voilà, j'aime beaucoup ça, ça te redonne de la profondeur et tout. Et ça enrichit le plan, donc ça le rend encore plus exaltant à certains moments. Et en fait, il montre des séquences du quotidien dans des contextes qui ne devraient pas. Qui ne le sont pas du tout. Donc, par exemple, un facteur dans un contexte tout à fait particulier. Alors, tu ne le lis pas comme ça dans le film, mais l'idée de Tic Vert, c'était justement de rebondir en fait, là-dessus. Et en fait, c'est ce qui survient au personnage principal à ce moment-là. Et c'est aussi une idée de prendre du recul par rapport à ta vie de tous les jours, à ce que tu vois, à ce que tu perçois en fait, de ce monde-là, de ce système-là, pour essayer de le questionner. Enfin, tout fonctionne, évidemment, il ne l'a pas fait par hasard. Et sinon, le reste avait été reconstitué. Alors, le film avait été tourné au Babelsberg, là, au studio allemand, mais là je crois que c'était dans un hangar pour des locomotives en fait, je crois.
Après il est un peu tourné partout hein, le film hein, parce qu'il y a
des
scènes
pour le Guggenheim spécifiquement, il l'avait reconstitué là-dedans.
Il y a des scènes à Milan, il y a des scènes à Lyon.
C'est 6 semaines de tournage je crois, la scène de
mais de toute façon ça se sent. Et en fait l'autre idée en fait de la scène, alors qui est pour le coup beaucoup plus basique en fait si tu veux, mais qui fonctionne très très bien, c'est que l'enjeu littéral c'est de sortir de là. C'est-à-dire vraiment de sortir de là avec le minimum de dégâts possible, ce qui est impossible hein, vu que les mecs ils font tout péter quoi, et qu'ils butent des gens dans des innocents et tout ça, etc., etc. Mais jusqu'à un point où finalement quand tu regardes la scène et t'en arrives à la fin de la scène, quand eux arrivent à s'en sortir, ils laissent quand même des hommes de main derrière, ce qui aussi ramène à un facteur humain différent. C'est-à-dire qu'au-delà de la survie,
c'est pas des héros,
le but
quoi.
C'est pas de tuer en fait. Le but c'est de s'en sortir et de révéler le complot, on va dire
mais c'est là aussi le film est d'ailleurs intelligent, c'est que moi j'aime beaucoup ce qui se passe tout de suite immédiatement après, et notamment à cette scène où ils sont à Central Park, là ils arrivent devant Central Park, là devant le grand réservoir,
toujours avec une très belle vue quoi.
Et non mais c'est magnifique, il se permet tout à coup un plan quelque part un peu carte postale en fait de New York, ce qui se permet jamais avant en fait, et c'est un très beau plan avec la neige qui commence à tomber, etc. Et tu te dis, après cette parce qu'elle est longue hein, la scène d'action et tout, et après cette brutalité et tout, avoir cette espèce de moment de douceur en fait dans le truc, moi je trouve que ça marche super bien. Ce plan du coup il est apaisant et tout. C'est là aussi où tu vois Tic Vert, c'est vraiment un mec intéressant.
De toute façon, voilà, on pourrait faire un épisode par exemple sur Courlo la Cour, mais Courlo la Cour, ce qui fonctionnait dans le film, en fait, c'était l'aspect très pas juste la musique techno, machin, tout ça, mais c'était vraiment l'aspect kinétique, en fait, l'aspect de foncer.
L'énergie, l'inventivité, la cyclique, puis le concept.
Mais et le concept est de montrer tout simplement aussi à travers des angles en fait de caméras différents, en fait, si tu veux, comment il peut dynamiser une scène banale en fait de course, dans la rue ou des trucs comme ça. Donc
différemment, il réfléchit différemment. Voilà. On en reparlera autrement.
Il le fait finalement dans pas mal de ses films, quoi. C'est-à-dire que même dans le film d'après La Princesse et le Guerrier, il y avait des scènes comme ça, il y avait des trucs. Donc c'est quelqu'un qui pense le cinéma de manière assez dynamique, assez directe. Moi, j'ai un souci avec le troisième acte du film, qui est un peu, je trouve, comment dire, pour le coup, je vois vraiment cousu de fil blanc. C'est-à-dire tout ce qui se passe, c'est très joli, hein, Istanbul, tout ça et tout. Mais en fait,
moi, j'aime beaucoup l'idée que plus tu avances, plus tu arrives à des architectures. De plus en plus ancienne en fait finalement, comme si t'arrivais à une espèce de racine, à une vérité antédiluvienne en fait,
de la source
du mal, mais je pense que c'est un truc volontaire, si tu veux, cette volonté de traverser comme ça le truc et tout. Et puis Istanbul, Constantinople, enfin je veux dire, ça a été aussi un point dans l'échange entre les hommes, un point sur le
berceau économique,
sur
bien sûr,
sur le marché économique, le fait que ce soit un lien entre l'Asie et entre l'Orient et l'Occident et tout, voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans et qui sont vraiment
hyper intéressantes. Je pense que c'est vrai, et de toute façon, même plus simplement que ça, il y a l'idée tout bête que en fait, ce système en fait, corrompt tout le monde entier en fait.
Exactement.
Donc en fait, si ça se passe à Milan, si ça se passe à Lyon, si ça se passe à New York, si ça se passe
à Berlin,
c'est normal en fait. C'est des capitales économiques quoi. Et en gros, l'idée c'est que moi ce qui me pose, on va dire, plus problème, c'est tout le truc autour de comment dire, de la façon dont il arrive à à comment dire entendre les discussions des mecs sans même se faire trop griller, puis quand il se fait griller c'est vraiment quand ça sert au scénario à ce moment-là qu'il soit paumé par rapport au truc, il est pas
oui.
C'est des trucs en fait où je trouve que là là-dessus et d'ailleurs l'alliance qui va faire qui est une autre alliance en fait plus attendue je trouve quand même là avec le général de Astasi, enfin l'ancien général de Astasi, c'est
plus amené
même...
surtout
ouais mais c'est surtout en fait presque l'idée en fait que le mec rompe à ce moment-là en fait et s'associe à lui, je trouve ça presque trop facile en fait dans l'écriture quoi. Et
moi je trouve que ça manque d'efficacité
le plan
en fait,
voilà le
truc.
Plan est pas super bien élaboré à ce moment-là alors que le film est quand même assez limpide jusque
là. Ouais mais je trouve que ça manque un peu d'efficacité là, c'est surtout ça. Il y a un truc et je me suis toujours posé la question, c'est que Clive Owen, on parlait de lui pour refaire James Bond et il retourne en fait dans le réservoir romain d'eau romain en fait que tu as à Istanbul, qui est un lieu très connu et dans lequel avait été tourné Arsène Bon Baiser aussi, si mes souvenirs sont corrects.
Bon Baiser Russie se passe à Istanbul aussi. Ouais.
Alors c'est Bon Baiser Russie, je me rappelle plus, mais bon bref. Oui, c'est Bon Baiser Russie. Je crois qu'il y a une scène d'action qui se déroule là-bas. Et à l'époque, je me rappelle que dans Inside Man aussi, je me souviens de ça et tout. Mais il y avait des échos en fait sur ces acteurs qui sont pressentis pour faire James Bond. T'as toujours des échos et souvent les cinéastes ils font des petits clins d'œil en fait là-dessus. C'est tellement énorme Bond. Et je me suis toujours demandé s'il avait pas fait ça pour ça et s'il avait pas sacrifié un petit peu là-dessus. Mais le fait est que là où je te rejoins, c'est pas forcément sur le là-dessus, mais c'est je trouve que ça manque d'efficacité. Ça, elle est un peu longue en fait cette séquence et je trouve qu'elle aurait mérité d'être un véritable épilogue, ce qu'elle n'est pas vraiment en fait. T'as une vraie séquence qui a un petit peu développé, entreprésente des personnages, entreprésente des situations, etc. Et je trouve que moi j'adore la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, celle qui se passe au-dessus du grand bazar d'Istanbul.
Ouais, sur les toits,
ça,
ouais.
Je trouve ça super et tout quoi. Et mais c'est vrai qu'il y a un truc où surtout après la scène du Guggenheim, t'as envie que ça file en fait. Et t'as la scène.
Ouais, puis c'est un morceau qui prend de la place, hein, la scène du Guggenheim. Hein,
donc ouais, voilà. Donc alors après, mais peut-être que parce que le podcast arrive à son terme là, j'imagine. Mais moi, je voudrais quand même qu'on termine sur une note très positive, qui est le reste de la mise en scène sur le reste du film. Et il y a notamment une idée que j'adore moi dans le film et dont j'aurais aimé qu'on parle tous les deux, Steph, qui est l'idée de l'arrière-plan en fait, et l'idée de la surveillance. Et le premier meurtre en fait du film. Se déroule comme suit en fait. Hein, tu vois très très tôt, bah tu commences avec le Clive Owen hein, dans le film, tu rentres
pluie,
sous la pluie avec Clive Owen, un très beau plan d'ailleurs. Et donc tu commences avec son plan.
Alors qu'il est très simple. Mais, et en même temps, il est
super beau.
Hyper bien cadré.
Ah, c'est beau ce plan, mais j'adore. Mais et donc en fait, donc tu rentres avec son point de vue et en gros, et il a donc ce collaborateur qui arrive au loin. Alors je crois que c'était l'aéroport ou la gare de Berlin qui était toute neuve à l'époque. Bon bref, il arrive de loin. Et il y a un personnage qui passe derrière lui, qui s'avère être le tueur, et qui le tue, en fait, qui lui donne un truc de cyanure, en fait, une piqûre de cyanure qui va le tuer immédiatement. Et en fait, tu percutes le truc très rapidement. Je me rappelle au cinéma, tu dis, mais ce mec qui est passé derrière, il y a un truc qui se passe, et il va t'appuyer ultérieurement dans le film, en fait, sur le fait qu'en fait, Clive Owen a vu le tueur derrière, mais que t'étais pas censé le voir. Et du coup, le film va tout le temps travailler là-dessus, sur qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Et notamment sur un truc que moi j'aime beaucoup, qui sont les surfaces vitrées. Le film, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à Istanbul, se déroule en grande partie, puis il y a Manhattan et tout, donc avec beaucoup à Berlin, avec beaucoup d'immeubles modernes, de nuit souvent illuminés. Et ça, c'est pas un hasard, quoi, parce que c'est compliqué d'illuminer un immeuble en fait dans un tournage, et où tu vas avoir un truc où tu te dis, t'es jamais tranquille en fait. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de te regarder dans le coin, et toujours quelqu'un, ou alors il y a quelque chose qui est en train de se passer en arrière-plan qui va pas être très très clair. Et je trouve qu'il y a une vraie intelligence de fond en fait sur la mise en scène là-dessus. Enfin, je sais pas si t'es d'accord.
Ouais, bah, ça joue sur la parano du personnage aussi.
Totalement.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette
mais
notion.
Mais qui te plonge en fait là-dedans, quoi.
Il y a cette notion en fait, de toute façon, voilà, que le personnage en lui-même n'est jamais entendu. Alors c'est un trope de des trucs de conspiration, bien sûr, mais qui est effectivement mis en image de cette manière-là. Après, c'est vrai que le film s'articule quand même aussi autour de pas mal de scènes clés en fait. Tu sens que voilà, et c'est en ça moi où je trouve que la scène finale est déceptive en fait. Si tu veux, est décevante parce qu'on me reproche de dire déceptif, tu vois. Mais c'est que elle a beau être très belle visuellement. Et ça, tu peux pas l'enlever. Enfin, je veux dire, la scène, elle fonctionne très, très bien, quoi. Tu vois, ce fond, il manque, en fait. Si tu veux, à ce moment-là, tu vois, c'est cette notion. Parce que justement, la bascule du personnage, tu vois, outre le fait qu'elle n'est pas finalement totalement assumée, je trouve, tu vois.
Quand même.
Même qui prennent, finalement, qui sortent en dehors des marges de la loi, tu vois. ça reste quand même assez voilà. Il y a un espèce de coitus interruptus qui me dérange pas en soi en fait, si tu veux, mais c'est juste qu'en fait s'il y avait quelque chose d'autre pour contrebalancer, le fond serait un peu plus respecté en fait, on aurait un peu plus une conscience de
l'autre
personnage.
Donc toi t'as un vrai
quoi.
Problème en fait de fond sur la fin et sur le sort,
oui,
qui réserve au personnage de Clavo.
Ouais, bah, bah, tout bêtement parce
ouais,
que
moi
j'aime l'idée en fait, si tu veux, qu'il ne puisse rien faire. C'est pas ça mon souci en fait, mais à la limite même le fait qu'il se salisse les mains m'aurait comment dire
il le fait quand même. Ah, t'as un mec qui le flingue, toi.
Bah, c'est pas forcément qu'il le flingue en soi, c'est qu'en fait, c'est la logique suivante, tu vois. Moi, j'ai l'impression plus qu'en fait, en fait, j'ai l'impression que c'est presque une note de, parce que je trouve que finalement, ce truc avec le tueur, italien qui arrive, en fait, qui vient venger, tu vois, voilà. C'est pas hyper bien amené en fait, tu vois, c'est un truc en fait, ça tombe un peu comme un cheveu au milieu de la soupe, dans la soupe, tu vois, et surtout si ça a été amené
par le joue
par
comme
un
effet de surprise.
Oui, mais en fait moi je le lis presque en fait comme une note de studio. C'est-à-dire
non,
et,
moi,
pourtant,
je trouve pas...
et pourtant apparemment Tig Ver, enfin lui assume littéralement l'idée que ce soit un film personnel.
Moi je sais que le film me laisse quand même sur un truc de désespoir quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime.
À la force des choses.
Tu vois, dans les films d'horreur, les vrais films d'horreur, j'adore quand t'as un sentiment de fin du monde à la fin de films. C'est très dur, je trouve, et là, c'est un sentiment de le monde est pourri. Et c'est ça, en fait, que j'attends, moi, des films de conspiration, en fait. C'est qu'à la fin, on me dise, le monde est pourri, quoi. Et je trouve que, tu vois, le plan sur Clive Owen avec ce crépuscule derrière, et puis les flares que fait le soleil de Turc, en fait, enfin, je sais pas, il y a un truc vraiment où tu te dis, le mec, il s'est grillé, mais pour rien, et qui fonctionne sur moi. Après.
Alors, oui, mais j'aurais tendance à croire quand même qu'à une époque, où la concurrence directe de Sims, c'est des trucs comme Jason Bourne, tu vois. Il y a quand même l'idée de faire une franchise, peut-être pas pour Tig Ver, mais en tout cas pour le studio.
Tu crois?
Ça m'étonnerait pas, ouais. Ah. Mais ça a été tué dans l'œuf par le beat du film. Et d'ailleurs, le film n'a pas très très bien été reçu hein, par la critique aussi. Quoi.
Oui, ce qui est étonnant. Hein,
ouais.
C'est vachement bizarre.
Quoi. Et bah, je pense que à leurs yeux. Parce que c'est toujours un peu le souci, je pense, de la critique, de manière, là je prends vraiment une généralité, hein, mais de confronter en fait ce que le film raconte à ce qui se passe, si tu veux, à ce moment-là dans le monde, tu vois, en bien ou en mal, on va dire, et en l'occurrence, là, la problématique, c'est moins fort, on va dire, entre guillemets, ce que ça raconte que ce qui se passait vraiment à ce moment-là, et mine de rien, je pense que c'est là où le film a pris un peu, parce que la comparaison ne se faisait pas forcément, c'est un film qui est développé depuis 6 ou 7 ans. Tu vois, donc en fait, ce que le film dit sur l'état du monde, c'est, enfin, cette crise, on n'y est pas arrivé en claquant des doigts. Donc c'est là où je pense que ce film est mal perçu.
Oui, effectivement, je pense qu'il parle beaucoup. Par exemple, il parle, comme tu disais tout à l'heure, de la dette et tout. Donc ils le savent en fait. Et Tig Ver, il le savait.
Bien sûr.
Mais le problème, c'est que je pense qu'il est passé notamment à travers le biais du trafic d'armes. Pour concrétiser en quelque sorte les magouilles financières qui vont éclater à ce moment-là, quoi. Et c'est vrai que finalement, peut-être qu'effectivement, t'as raison. Il y avait plus besoin en fait d'avoir le trafic d'armes.
Voilà, il y a un élément de crime, si tu veux, qui en fait qui est
super superfétatoire, quoi.
C'est-à-dire, c'est même pas seulement ça, c'est que j'ai toujours ce sentiment. C'est comme ce. Alors, ce n'est pas un podcast sur Gone Girl, mais j'ai toujours l'impression que pour expliciter en fait le danger du personnage féminin, il fallait qu'elle tue quelqu'un à un moment donné, sinon en fait il t'aurait forcément une partie du public qui comprendrait pas que c'est une perverse narcissique totalement toxique, quoi, tu vois. Mais en fait et donc du coup on rentre dans un élément criminel, c'est-à-dire on montre un élément criminel pour être clair, net et précis sur le truc, quoi. Et pourtant Dieu sait que les banques elles ont pas besoin de ça en fait, tu vois. Donc
non mais c'est sûr, mais bon après c'est toujours compliqué. J'aime pas trop faire ce procès parce que c'est quand même tellement louable en fait d'essayer d'être clair surtout sur un sujet pareil.
Et c'est un film qui fonctionne très bien, il faut le rappeler. Hein. Je suis comme déjà à l'époque en fait. Hein, je l'avais vu une fois à l'époque, je l'ai revu là, un petit peu déçu par la fin. Il n'empêche que bon voilà, c'est un film qui fonctionne très très bien
et qui se voit très facilement. En plus, t'es pas d'accord avec moi. C'est vrai que c'est un film où tu dis qui parle des banques et machin et tout. Mais si je peux vous encourager aussi, franchement, vous allez vous le lancer, ça passe, ça glisse tout seul.
Ouais,
quoi.
Et puis, à tout prendre, je préfère. Mais j'ai fait cette comparaison qui, je pense, est une comparaison de studio, hein, pas la mienne, tu vois, forcément. Mais en fait, à tout prendre, je préfère largement regarder ça. Que ce soit en termes d'action, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes de même ce que ça raconte, tu vois, que n'importe quel Jason Bourne.
Et ben voilà, et ben nous terminerons là-dessus avec la musique de Jason Bourne.
La musique de l'International, l'enquête, la caquette, comme je dis.
La caquette, putain, voilà. Mais pourquoi la caquette?
Il fallait un point caquette. Merci Julien.
Mais merci
Stéphane. Merci à la technique.
Merci Alain.
Merci à tous nos auditeurs. Pour nous suivre, c'est les réseaux sociaux habituels. On est un peu partout sur les agrégateurs de podcasts.
Partout,
aussi.
On est comme les banques en fait. Ouais, ouais, nous sommes partout.
Voilà, mais on fait pas du trafic d'armes.
Non.
Et
fait, trafic de Blu-ray, nous.
Trafic de Blu-ray, tiens, tu l'as vu ce film, tiens, on le récupère, tu vois. Voilà. Ça nous, des fois, ça nous dit ce qu'on va traiter d'ailleurs la prochaine fois, quoi, tu vois. Mais pour l'instant, on sait pas ce que ça sera, on verra. En tout cas, on vous conseille vraiment de revoir l'enquête. The International, cherchez-le par le titre anglais parce que l'enquête, il y a tellement de films qui s'appellent comme ça que voilà.
On n'a même pas parlé de Naomi Watts, c'est pas normal.
Elle est très bien.
Elle est bien. Hein.
Elle est bien, Naomi Watts, dans le film, tu vois.
Ouais. Mais bon, toujours ça, bien.
Voilà, tu veux pas parler, il fallait en parler avant.
Mais oui, allez, c'est fini.
C'est fini.
Adieu.
Merci à tous.
Au revoir.
Bientôt.
Salut.